Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h cette semaine. Ce sera un plaisir de retrouver Agnès Bonfillon. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. À la une, évidemment, les Bleus, le cœur en miettes. Ils sont sur la route du retour, nos Bleus. Il va en falloir du temps pour digérer la défaite face à l'Argentine. Ils ont pourtant réussi à revenir au score grâce à un Kylian Mbappé stratosphérique, mais la séance de tir au but, elle, a été fatale. Il y a également eu ces 80 premières minutes complètement à côté de la plaque. Nous essaierons de comprendre ce qui a pu se passer. Et puis, il était peut-être question pour les Bleus de venir quand même saluer leurs supporters à leur arrivée, place de la Concorde. Finalement, ce ne sera pas le cas. Peut-être plus tard. C'est notre...
Il y a discussion, paraît-il. Voilà, il y a discussion entre l'Élysée, le ministre des Sports et la fédération.
En tout cas, c'est notre question du jour. Selon vous, les joueurs de l'équipe de France devraient-ils se rassembler dans les prochaines semaines avec les supporters?
Dans cette édition également.
Nous sommes à 6 jours de Noël. Bien cette sûr. Semaine, nous vous faisons découvrir
Noël hier, hein.
Les plus beaux marchés en région, c'est vrai. Vous allez pouvoir voter sur le site RTL. Et bien sûr, jusqu'à vendredi, nous allons parler repas de Noël avec les produits traditionnels et surtout, toutes les astuces qui vont avec. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Tant pis pour la vie en bleu aujourd'hui, c'est du rose dont nous parlera Monique Younes. Le rose, couleur très tendance cet hiver.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs, on parlera j'imagine essentiellement de football, mais aussi sans doute de cuisine avec la très charmante et très belle qui sera là, dont j'oublie le nom à l'instant, qui
Adriana est Adriana 42.
Voilà, Adriana, c'est l'émotion, Adriana 42.
C'est agréable pour nous. Mais avant ça, la météo avec vous Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un temps assez maussade, assez pluvieux vers les frontières belges, la Bretagne, mais aussi vers la vallée du Rhône, mais un être doux. Nous y reviendrons un peu plus tard.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
On refait le match, ce n'est pas seulement une émission culte de RTL. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous repasser le film de cette incroyable finale entre l'Argentine et la France. Et forcément, les Bleus ont dû pas mal cogiter eux aussi cette nuit. Là, ils sont actuellement sur le chemin du retour. Mourad Djabari, bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Après ce mondial, connaît-on leur emploi du temps pour les prochaines heures et les prochains jours?
Oui, comme vous le disiez, les Bleus sont en ce moment dans l'avion. Ils ont décollé il y a quelques minutes en direction de la France et de Paris pour une arrivée prévue à l'aéroport Charles de Gaulle aux alentours de 18h. Des souvenirs plein la tête, les fêtes, les soirs de victoire et la déception énorme d'hier dans leur bagage. Ces Bleus vont retrouver très vite leur famille et aller quelques jours en vacances avant de rejoindre leur club respectif. Le sélectionneur Didier Deschamps va prendre lui quelques jours pour réfléchir sur sa situation.
Cette déception, elle prend le pas sur tout. Un mois ensemble, c'était vraiment un pur bonheur d'être avec eux. Aujourd'hui, malheureusement, je le répète, la déception est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout. Le résultat, il est ce qu'il est. On aurait pu gagner. J'aurais agi de la même façon. C'est l'équipe de France avant tout. Et donc, comme c'est prévu, je verrai mon président en début d'année.
Oui, une rencontre avec Noël Le Graët est prévue en janvier. Le président de la FFF, comme le président de la République, souhaite le voir continuer. Mais cette décision appartient à Didier Deschamps.
Mourad Djabari, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar concernant une venue des Bleus ce soir, place de la Concorde. Pour l'heure, selon nos informations, rien n'est arrêté, rien n'est décidé à cette heure-là.
Et ce matin sur RTL, l'ancien responsable de presse de l'équipe de France, Philippe Tournon, s'interroge sur le début d'un match complètement raté.
Et il en a connu des émotions, Philippe Tournon, pendant près de 30 ans auprès des Bleus, notamment pour la victoire en 1998. Là, il ne comprend absolument pas ce qui a pu se passer.
Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce non-match pendant près de 80 minutes, comme une chape de plomb qui s'était abattue sur une équipe de France jusque-là ardente, vaillante, conquérérante, et qui tout d'un coup, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Est-ce qu'ils avaient fait le match avant le match? Est-ce que ces fameux virus qui ne disent pas leur nom avaient affaibli les organismes? L'excellente première mi-temps des Argentins, serein, très technique, très, très, beaucoup d'impact dans les duels, etc. Mais ça suffit pas. On a eu des oppositions comme ça. Le match contre les Anglais n'était pas une partie de plaisir, loin de là. Mais il y avait du répondant. Il y avait un vrai duel. Et là, on a eu trop souvent le sentiment qu'il y avait un non-match pendant plus d'une heure, quoi. C'est ça.
Philippe Tournon, invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Que s'est-il passé pendant les 80 premières minutes de cette finale fantastique? On y revient après ce journal avec un journaliste de l'équipe depuis le Qatar.
Et puis, il y a quelques minutes, la première réaction sur Twitter du héros français de cette finale, Kylian Mbappé.
Oui, silencieux hein, depuis hier. L'attaquant a écrit ces quelques mots. « Nous reviendrons ». Avec un drapeau français et un merci. Une photo de lui qui passe à côté de la Coupe du Monde sans même un regard. Alors cette finale, on ne l'a pas gagnée certes, mais qu'est-ce qu'on a pu vibrer, espérer, rêver? Le scénario a été complètement dingue et forcément vous avez pu le constater Alexandre de Saint-Aignan à la Défense. C'est le sujet dont tout le monde parle à la pause déjeuner aujourd'hui.
Et oui, au pied de ces immenses tours de bureau, la pilule a encore du mal à passer pour Mathias, Clément et Estelle.
Quel match hein.
Vous l'avez déjà oublié.
C'est sorti de ma mémoire, ouais. Petite gueule de bois quand même, en effet, ouais. Violente même.
Non, bon bah mal dormi, hein, c'est comme ça. Après, bon, un beau mondial, un beau match. Comme ça.
Au moins, il y a eu des émotions, c'est ce qui compte.
Ah bah ça, c'est sûr. Les murs de chez moi ont tremblé.
Et aujourd'hui, est-ce que les émotions elles sont redescendues?
Non, toujours pas. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour digérer.
Voilà, Fred a passé la soirée en famille devant le match, lui. Et ce matin, depuis le petit déjeuner avec ses enfants, jusqu'à maintenant, il ne parle pratiquement que de ça.
Bah, on s'imaginait faire la fête, du coup on s'est couché plus tôt et bah, on est en forme ce matin. C'est les discussions du bureau de ce matin, c'est clair que c'est ça.
On arrive quand même à raccrocher un peu les wagons et se remettre au boulot, où pour l'instant c'est la matinée était surtout consacrée au débrief de la soirée d'hier.
Il y a les deux. Il y a la semaine parce que c'est la fin de l'année. Il y a aussi bah ouais, le match d'hier, donc on en parle aussi. Voilà. Ça prend un peu de temps aussi ce matin de parler de ce match. Mais en tout cas, voilà, on est fiers de nos bleus, quoi. Donc ça c'est essentiel.
Et en attendant la revanche pour l'équipe de France, les salariés se consolent en se disant qu'après tout, bah, c'est bientôt Noël.
Alexandre de Saint-Aignan pour RTL et nous allons évidemment reparler nous aussi de cette finale dans quelques instants.
Et débrief bien sûr avec les auditeurs entre 13h et 14h30. L'autre grand titre de l'actualité Agnès, c'est cet accord historique approuvé à la COP15 de Montréal.
Oui, accord pour enrayer la destruction de la biodiversité. Concrètement, Virginie Garin, tous les pays prennent des engagements forts?
Oui, alors c'est un peu comme l'accord de Paris sur le climat, mais cette fois pour la biodiversité, c'est-à-dire que tous les pays du monde s'engagent, ils promettent d'enrayer la disparition des espèces d'ici à 2030. C'est une première que tout le monde se fixe le même cap, mais tout reste à faire ensuite pour transposer cet accord dans les pays, dans leur législation. Alors il faudra protéger au moins 30% des terres et des océans, créer des aires marines, des parcs naturels, il faudra réduire les pesticides, changer les méthodes de pêche, donc protéger ce qui reste à protéger, et puis restaurer ce qui est déjà abîmé, la forêt, les cours d'eau. Le représentant du WWF, Pierre Canet, présent à Montréal, réagissait il y a quelques minutes. Ça ne casse pas la baraque, mais ça sauve les meubles, disait-il. Tout le monde est d'accord pour aller dans le même sens. À quelle vitesse, là, ça va être beaucoup plus compliqué.
Et Virginie Garin, il y a urgence à passer à l'action. Le thermostat de la planète est mal en point. La preuve, après un épisode glacial ces derniers jours, les températures remonte, Claire Delorme, mais pas qu'un peu, on fait le grand écart, parfois avec 10 degrés de différence.
Exactement, donc ceci est dû en fait à l'anticyclone qui est proche de l'Europe, et donc il pilote de l'air qui provient à nouveau du Maghreb. C'est pourquoi, eh bien, par exemple, dans le nord-est, ne serait-ce que la veille, il faisait jusqu'à moins 3 degrés par endroit, et que cet après-midi, nous aurons par exemple 10 degrés à Metz, ou encore 11 degrés à Nancy, 13 degrés à Besançon, donc oui, c'est assez édifiant, mais pas anormal en tout cas. Donc nous avons encore une perturbation qui ondule cet après-midi des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France avec des pluies localement faibles. Le flux de sud, donc ce vent hein, piloté par cet anticyclone, il sera quand même assez fort hein, le long des côtes de la Manche jusqu'à 80 km/h. Et puis plus on va à l'avant de cette perturbation, ça sera un temps davantage nuageux mais beaucoup plus sec à l'exception du pourtour méditerranéen jusqu'à la vallée du Rhône où là aussi les pluies seront faibles mais temporairement plus marquées contre les Cévennes. Et donc les températures donc en effet, douce cet après-midi, que ce soit pour le nord-est, mais aussi partout ailleurs, avec 12 degrés à Brest, 9 degrés à Nantes, 11 degrés donc à Paris, 11 degrés également à Dijon, 13 degrés à Aurillac, 17 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 16-17 degrés du côté de la Corse.
Merci beaucoup Claire.
RTL Midi,
un jour chez vous.
Et toute la semaine, grand concours du meilleur marché de Noël de France sur RTL. Depuis ce matin, vous pouvez voter sur notre site rtl.fr, choisir l'un de nos 7 candidats.
Et le principe est très simple. Nous avons demandé à nos correspondants en région leur coup de cœur. Nous vous en présentons un chaque jour. Aujourd'hui, direction l'Alsace. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal.
Vous avez choisi de nous emmener à Kaisersberg. C'est pour vous le marché de Noël le plus authentique de toute l'Alsace, sur la route des vins.
Oui, Kaisersberg, c'est déjà en temps normal l'un des plus beaux villages de France, mais en période de Noël, c'est un décor de conte de fées, avec ses maisons à colombages, toutes illuminées et décorées, et son petit marché de Noël qui a su garder son âme, 45 chalets, uniquement des producteurs locaux et artisanaux, dans une ambiance de village hyper accueillante. Sylvie vient de Bourgogne avec ses amis.
Moi, ça doit faire au moins 10 fois, on ne s'en lasse pas. Et j'ai dit à mes amis, celui de Kaisersberg est le plus beau.
Le marché de Noël est blotti dans un décor historique, nous sommes dans la cour de l'Arsenal avec son balcon en bois sculpté du XVIIe siècle. C'est là que vous pouvez découvrir les créations des artisans. Mais vous ne partirez pas sans avoir goûté aux spécialités locales alsaciennes, les bredele, les pains d'épices.
Tu veux un verre de vin chaud ?
Oui, et le vin chaud, forcément. Michel tient sa recette secrète depuis des années.
TF1, Jean-Pierre Pernaut, qui venait chaque année ici, il voulait la recette de notre vin. On ne lui l'a jamais dit, malheureusement il est parti. Le rouge, il est fait avec du vin rouge, des épices, de l'orange, des fleurs d'anis, alors que le blanc, il est fait avec du miel et des plantes aromatiques de la montagne.
Yannick, à part ça, quel produit faut-il absolument rapporter de Kaisersberg ?
Écoutez, j'ai eu un coup de cœur absolu sur ce marché. Ce sont les incroyables pains d'épices décorés par Andrea. Cette Alsacienne, originaire de Slovaquie, a choisi de partager une tradition de son pays. C'est tellement fin au début qu'on croit que c'est de la dentelle posée sur des pains d'épices. Mais non, c'est du glaçage.
On était habitués à décorer notre sapin de Noël avec les gâteaux. C'est du pain d'épices et glaçage. Ça s'appelle ici en France glaçage royal. Et c'est ma maman qui m'a appris à les faire. Je les fais depuis mon enfance. Il faut être précise et il faut être patiente aussi.
Alors allez voir les photos sur rtl.fr, c'est vraiment splendide.
Et pourquoi, Yannick, est-ce qu'à vos yeux, c'est Kaisersberg, je vais y arriver, qui doit gagner ce concours ?
Écoutez, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un débat ? Les marchés de Noël, c'est l'Alsace, comme la bouillabaisse, c'est Marseille, ça ne se discute pas. Les marchés de Noël, ils ont plus de 400 ans, alors qui peut rivaliser avec ça ? Le marché de Noël à Kaisersberg, ce n'est pas un attrape-touriste pour faire du business, il a su rester authentique, c'est un marché à taille humaine. Dans les chalets, ce sont les artisans eux-mêmes ou les habitants qui prennent le temps de discuter avec vous autour d'un vin chaud. Vous ne venez pas forcément en fait pour acheter quelque chose, vous venez pour vivre un moment unique. Et c'est ça qui change tout. S'il y a un endroit on peut ressentir la magie de Noël, c'est ici.
Bah visiblement, Yannick Collant, vos arguments font mouche. Vous êtes en tête du classement pour l'instant. Ça va durer toute la semaine. Kaisersberg en première place, Arras et puis Obernai. Vous pouvez tout faire changer, hein, évidemment. Photos, vidéos, on vous met tout sur notre site internet. Vous pouvez voter sur rtl.fr toute la semaine.
En revanche, pour le match de l'équipe de France, c'est terminé. Elle est battue. On en parle dans une seconde. Décryptage avec Loïc Tanzi, qui est journaliste au service foot du journal L'Équipe.
RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon. Freed from desire. Mind
and senses purified. Freed from desire. C'est la version mélancolique.
Mais... Exactement, on a tous ce sentiment de gueule de bois, hein, oui, aujourd'hui.
Pas tout à fait.
Malgré,
quand même.
C'est vrai, voilà, malgré une finale d'anthologie. Tout à fait. Non, mais on est heureux parce qu'on a vu un
tel
vibré.
Jeu. On a vibré.
Exactement. Les montagnes russes émotionnelles à Mbappé, stratosphériques. Les Bleus s'inclinent, on l'a dit, face à l'Argentine de Lionel Messi au tir au but. On va essayer quand même de comprendre pourquoi les tricolores ont débuté la rencontre à plus de 70 minutes de jeu. Il a fallu du temps quand même. Hein. Pour en parler, nous sommes avec Loïc Tanzi. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service foot, au journal L'Équipe, et on entend un petit peu de bruit derrière vous parce que vous êtes à l'aéroport, ouais. Vous êtes en train de quitter le Qatar, comme de nombreux journalistes. Alors, selon vous, Loïc, les Bleus étaient affaiblis ou les Argentins ont juste joué un superbe match dès leur entrée sur le terrain ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a certains joueurs qui étaient affaiblis physiquement, notamment Raphaël Varane, le vice-capitaine et défenseur central, qui a été touché par un virus cette semaine au Qatar. Donc certains joueurs étaient un peu affaiblis physiquement, mais plutôt en fin de match. Ça qui est bizarre, c'est quand on a parlé aux joueurs hier après la rencontre, ils disent qu'au début ça a été. Donc c'est pas vraiment une explication sur le début de match, parce qu'ils ont ressenti la fatigue vraiment, notamment durant la prolongation. Non, les joueurs ont sûrement été surpris par la tactique mise en place par les Argentins, qui sont arrivés très fort dans le match, qui ont fait aussi des coups tactiques avec notamment André Di Maria qui a été positionné côté gauche, l'ancien parisien. Et surtout, il y a certains joueurs comme Griezmann, notamment Olivier Giroud, qui ont paru presque un peu surpris de l'ambiance d'une finale de Coupe du Monde, alors qu'ils en ont disputé une et gagné une il y a 4 ans face à la Croatie. C'était crispé hier, ce genre de joueurs. Et c'est quand vos leaders sont crispés, c'est tout de suite plus compliqué pour le reste de l'équipe derrière.
Loïc Tanzi, qui est journaliste à l'équipe, parlons précisément de ce virus. On a l'impression ou on imagine que les joueurs avaient le Covid. Or, il n'y avait pas de mesures anti-Covid au Qatar. Est-ce qu'au fond, il y a un mystère mystérieux autour du virus de l'équipe de France ?
Complètement, pour le coup, tous les symptômes, ça ressemble clairement au Covid, hein, tous les symptômes qu'avaient les joueurs, la fièvre, maux de tête, maux de ventre, beaucoup de fatigue, ça ressemble au Covid. Il n'y a pas de test au Qatar, ni pour les joueurs, ni pour les journalistes ou les gens, les supporters qui sont venus au stade. Donc aucune obligation de tester les joueurs. Donc on saura probablement jamais si c'était vraiment le Covid ou pas, mais ça y ressemble
le staff
fortement
médical
dès
le
quart
sait.
De finale. Hein.
Le staff médical le sait, simplement s'il l'avait dit, il aurait peut-être fallu prendre des mesures pour tout le groupe. Moi, je l'interprète, en tout cas, j'imagine que c'est une hypothèse qui est possible. Comme toutes
les
hypothèses.
Moi, je pense qu'ils n'ont même pas testé les joueurs, justement, pour éviter d'avoir à faire en sorte de mettre tout le monde en quarantaine si jamais c'était le Covid. En fait, je pense qu'ils n'ont même pas voulu prendre le risque de tester les joueurs.
Mais je comprends, d'une manière politique, bien sûr, je comprends.
Loïc Tanzi, quand vous dites que des joueurs comme Olivier Giroud ou Antoine Griezmann ont semblé un petit peu déstabilisés par l'ambiance du stade, c'était à ce point-là, vous qui avez été présent ?
Ah oui, pour le coup, on a eu du mal à comprendre un peu l'effort de... Moi, je prends Giroud et Griezmann parce que ce sont les deux joueurs emblématiques de cette équipe de France. On va prendre Mbappé aussi, qui sur 70 minutes, avant d'être incroyable durant la fin de match, là, on n'a quasiment pas vu Mbappé sur le début de match. Mais c'est vrai que des joueurs comme Giroud et Griezmann qui sont sortis relativement tôt dans la rencontre, on attendait plus de ce genre de joueurs, notamment dans la grinta, dans la niaque un petit peu qu'ils ont mis sur le terrain. Et puis, il n'y avait pas ça. Et eux, pour le coup, il n'y a pas eu de virus. On a vérifié ce matin, ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas affaiblis physiquement. Donc la seule explication qu'on a aujourd'hui, en attendant de pouvoir leur parler, c'est qu'ils ont été un peu surpris, un peu crispés par l'événement. Peut-être que ça arrive encore pour des joueurs comme ça d'être crispés par une finale de Coupe du Monde.
Il y a eu sinon une polémique, en tout cas un sujet d'interrogation sur les tireurs au but, parce qu'on a manqué d'expérience sans doute. Et Giroud et Griezmann nous auraient rendu un fier service. Simplement, la sortie de Giroud et Griezmann a correspondu à une bonne séquence de l'équipe de France. Donc ça a quand même été des bons choix de Didier Deschamps.
Ça a été très bon choix parce que oui, à la fin, pour Giroud et pour Griezmann, les tireurs de pénalty, ils auraient fait le travail certainement. Sauf que Randal Kolo Muani qui est entré, Marcus Thuram qui est entré également, ce sont des joueurs qui ont fait la différence. Ils sont rentrés à 2-0 contre l'équipe de France. Randal Kolo Muani a été exceptionnel. Il a disputé sa première finale de Coupe du Monde. Il a quasiment sa cinquième sélection hier. Il a 24 ans. Il y a 3 ans, il joue en 3e division française et c'est lui qui change le visage de cette équipe. Donc oui, pour le coup, les changements de Deschamps, on peut dire que c'est des changements réussis de la part du sélectionneur. Et pour le coup, lui, il a réussi son match parce qu'il n'a pas subi cette finale. Il a vu assez rapidement, au bout de 40 minutes de jeu, qu'il fallait changer des choses dans cette finale. Il a fait rentrer Marcus Thuram, il a fait rentrer Kolo Muani. Ce sont des changements qui ont permis notamment à Mbappé d'être mieux servi, d'être plus libre sur le terrain. Et ça a permis aussi à Mbappé de réussir à marquer son triplé ensuite.
Loïc Tanzi, selon vous, on assiste au passage de témoin entre deux générations. Véritablement, vous en parliez il y a un instant, de ces jeunes joueurs.
Clairement, et le capitaine Hugo Lloris l'a dit hier en conférence de presse, il y a un passage de témoin parce qu'il y a des joueurs qui vont réfléchir maintenant. On pense à Lloris, bien entendu, le capitaine, à Olivier Giroud, Steve Mandanda, peut-être même Antoine Griezmann et Raphaël Varane qui ont 29 ans et bientôt 30 ans. Ces joueurs-là ont été champions du monde, ont fait une finale d'Euro, ont fait une finale de Coupe du Monde. Ils ont quasiment tout connu en équipe de France. Ils vont penser à leur avenir. Certains vont arrêter. D'autres commencent à prendre de l'expérience. France. On a vu Upamecano qui a été très bon durant cette Coupe du Monde, le défenseur central. À Colomwani hier, bien entendu, on a d'autres joueurs qui vont arriver aussi, très jeunes joueurs. Donc oui, clairement, c'était une Coupe du Monde pour permettre aux jeunes joueurs d'emmagasiner de l'expérience. Une finale de Coupe du Monde, c'est une expérience formidable pour essayer maintenant d'aller chercher l'Euro. L'Euro, c'est dans un an et demi déjà, c'est très court, en Allemagne, en juin 2024. Et l'équipe de France aura l'ambition d'aller être championne d'Europe.
Loïc Tanzi, qui est journaliste à l'équipe, c'est le retour au bercail. Loïc, ça fait combien de temps que vous êtes parti de la maison?
Ça fait 5 semaines déjà.
Donc la famille vous attend ce soir?
Exactement.
Non, la mais j'imagine. Ça, alors, je ne connais pas si vous avez des enfants ou pas, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est un bon moment de les retrouver. Vous êtes dans la délégation des journalistes, vous êtes avec nos amis de RTL qui reviennent également dans le même avion.
Ils sont devant moi, il y a Nicolas Georgerot et Philippe Sanfourche qui sont à ma gauche.
Vous les saluez, on va les entendre tout à l'heure, mais surtout, ils viennent demain en studio avec les auditeurs, ont la parole. Ils ne rentrent pas, ils ne sont pas en vacances demain. Moi, je veux les voir et je veux qu'ils parlent avec nous. Merci en tout cas, Loïc, vous étiez formidable. Ce que vous disiez était très intéressant. Merci à tous.
Avec plaisir, merci beaucoup.
12h21, qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Quelle viande va-t-on manger à Noël? Voilà une bonne question. Je ne sais pas si vous êtes chapon, dinde, poularde. Vous êtes quoi? Poulet?
Poularde.
Poularde, c'est bon la poularde. Moi j'aime bien le chapon. A tout de suite, 12h22.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Votre vie.
Mais... chapon, dinde, oui. Poularde, pintade, oie et même poulet, bah oui. Alors, est-ce qu'il faut la farcir ou pas, notre volaille, à Noël? Est-ce qu'il faut la faire rôtir au four? On va tout savoir grâce à notre invité, Romain Leboeuf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef boucher, vous avez obtenu le titre de meilleur ouvrier de France boucher en 2015. Ouais. Y a-t-il une viande plus Noël, entre guillemets, que les autres?
Oui. En fait, on a les volailles dites festives, donc qui sont les grosses volailles, comme les dindes, les chapons, les poulardes, mais pour plusieurs raisons. Alors bien sûr, la raison du nombre. Noël, c'est un moment de partage, de convivialité, de rassemblement, donc on profite, on va tous chez nos grands-mères, chez nos mères, donc on se retrouve des tablées qui sont un petit peu plus grandes que d'habitude, donc on en profite. On laisse le poulet du dimanche, et puis on va passer sur une volaille plus grande, donc... plus grand, hein, on a poularde, et puis après on a encore au-dessus le chapon, puis après on a la dinde, et puis on a aussi le fait que c'est des volailles dites grasses, donc plutôt en hiver, et évidemment Noël tombe à pic à ce moment-là, le chapon, on fait ce qu'on appelle le chaponnage, donc la castration, qui doit être fait en amont, et on fait en sorte de faire les chapons pour Noël, donc ça se prévoit, ça s'anticipe.
Ouais. Et il y a une tendance d'une année sur l'autre?
Il y a toujours une tendance, il y a une mode. C'est pas que dans le vestimentaire, il y a une mode alimentaire.
Donc cette année, c'est la mode de quoi?
Alors là, cette année, on est parti pour la poularde. Alors peut-être qu'on fera...
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus petit que la dinde ou le chapon. Mmh. Et en fait, on fait de plus en plus plusieurs Noëls. C'est-à-dire qu'avant, on fait un Noël le 24.
Il y a des familles recomposées.
Et voilà, les familles recomposées font que des fois, il y a 2, 3, des fois 4 Noëls.
Mon marchand de sapins m'a dit c'est formidable les familles recomposées parce qu'on vend 2 sapins.
Oui.
Et notamment les pères, il me disait ça hier matin, il disait les pères achètent un sapin dans la dernière ligne droite parce qu'ils ont oublié d'acheter le sapin, ils ont les enfants cette année.
Ah oui, non, mais alors, et chez nous, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que plutôt que de vendre une dinde, on va vendre 2 poulardes parce qu'il va y avoir 2 repas bien différents. Oui. Et alors, c'est pas plus mal parce que ça permet de goûter autre chose. Alors, je dis 2 poularde, en réalité, non. En général, ils font une poularde, puis après, ils vont faire un gibier ou une belle pièce de bœuf.
Et alors, on en profite, hein, meilleur ouvrier de France, on va quand même vous poser des questions. Est-ce que vous avez des astuces, des trucs à nous donner, 6 jours avant
Noël? Oui, parce que
Noël.
C'est toujours sec, le poulet. Oui, c'est souvent alors, sec.
On va parler pour vous.
Non, mais je parle...
Il ne sait pas cuisiner, il incrimine tout le monde.
Oui, c'est ça.
Mais non, oui, exactement. Je
c'est qui a arrosé votre volaille?
Mais, ouais, alors évidemment...
Sauf celui de ma maman, bien sûr.
Ah, mais de toute façon, la cuisine des mamans, des grands-mères, ça, on ne peut pas lutter contre ça. Hein. Ça, c'est incontestable. Alors après, oui, effectivement, il y a des astuces. Donc, on le dit, arroser régulièrement. Ça, c'est la première chose à faire. Après, il y a aussi d'autres choses. Démarrer plutôt à four basse température, voire froid. plus la pièce est grosse, plus on démarre doucement. On va éviter de matraquer notre viande avec des fours chauds, des 200, des 180. On va démarrer à froid et on va y aller 100 degrés, 140.
Donc on préchauffe pas.
On préchauffe pas. Mais ça dure combien de temps ? C'est 3 quarts d'heure un poulet ?
Ça dépend, un bon kilo, poulet, ouais. Un bon poulet fermier, on est déjà sur 1h15, 1h30. Hein.
Ah oui.
Mais il c'est nous pour le ça qu'il est sec. Sait pas cuisiner, c'est bien.
C'est pour ça qu'il est sec. C'est que je fais de
1h15.
Oui.
Ça va être très long.
Alors pendant combien de temps on est à four froid ?
Alors ça dépend, mais on prend
premier quart d'heure, c'est un peu comme le match de l'équipe de France hier. On commence à four froid, et puis on commence à marquer les buts dans le dernier quart d'heure.
J'aurais aimé voir autre chose hier, mais dommage pour nous. Mais bon, on a de la combativité, il faut le noter. Bon.
Le budget, parce qu'on parle beaucoup d'inflation cette année, ça concerne également les volailles.
Oui, on a eu aussi une augmentation des céréales. La volaille consomme beaucoup de céréales, donc augmentation de la volaille, bien sûr. Beaucoup de mes confrères et moi-même, on a absorbé une partie de cette augmentation pour justement permettre à nos consommateurs de pouvoir se faire plaisir.
Mais ça reste cher. Poulard, chapon d'Inde, ça reste cher.
Le kilo. Ça reste des volailles qui sont assez onéreuses. Pourquoi ? Parce qu'il y a du travail derrière.
Oui, mais le kilo ?
Alors le kilo, ça va dépendre si on fait du fermier, si on fait du Bresse déjà. Mais effectivement, chapon de Bresse, c'est l'extrême. On peut être dans les 50 euros le kilo. Oui. Là, c'est du volaille de luxe, mais on a du fermier et on peut avoir du fermier à 20
et
euros.
Et si on est 6 ou 8, ce qui doit être à peu près la table moyenne à Noël.
Oui, on peut trouver une très belle volaille pour entre 70 et 80 euros la pièce. On arrive à trouver une très belle volaille. Ce qui fait 10 euros par personne, ce qui n'est pas non plus excessif c'est entendu. Pour un repas festif.
Pour 6 ou 8, c'est combien de kilos l'idéal ?
6 ou 8, il faut une volaille de 2 kg, 2,5 kg au moins, parce qu'il y a quand même de la carcasse. Hein. L'idée, c'est de la farcir après.
Dernière petite question, est-ce que l'on peut encore commander ? Là, nous sommes à 6 jours de Noël, ça va être
là, on est dans les dernières commandes. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà des collègues qui ont bloqué les commandes, qui n'en prennent plus. Moi, j'en prends aujourd'hui, j'en prends demain, et après, j'arrête.
Alors, c'est toujours des sujets délicats à parler, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont entendu votre prix, 60-80 euros. C'est un budget extrêmement important, disons-le.
C'est impossible pour beaucoup de familles.
Voilà, c'est pour ça que dans cette période de Noël, c'est vrai que les médias parlent beaucoup de ces repas festifs, mais il faut penser à ceux qui seront plus en difficulté.
On propose aussi d'autres choses, notamment tout simplement des poulets fermiers ou des poulets de Bresse qu'on désosse, qu'on farcit. Et là, on permet de
dernière chose, avant la pause, faut manger ça avec quoi ?
Ah, mais classique.
Des marrons,
une petite jardinière de légumes pour faire un peu léger, des petites pommes de terre qu'on oublie un petit peu dans le four pour les faire confire.
Des chips ?
Des petites pommes de grenaille.
Des frites. Bon, merci en tout cas, monsieur Leboeuf.
Merci beaucoup.
Il est
12h29, on est déjà en retard, l'info revient.
RTL Midi.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et à 12h30, c'est donc votre grande édition de la mi-journée, Agnès Bonfillon. Mais nous ne l'avons pas dit encore, ça sera record d'audience hier.
Et nous allons en parler dès le début de ce journal. 24 millions de téléspectateurs ont suivi cette finale France-Argentine, c'est un record. Le retour des Bleus, c'est en ce moment même. Leur bus vient d'arriver à l'aéroport, à Doha. Arrivée de Roissy-Charles de Gaulle en fin de journée. Et d'après nos informations, cette fois c'est confirmé. Oui, ils iront bien. Place de la Concorde, ce soir à la rencontre des supporters. Ce sera vers 20h30. Toutes les informations sont à suivre dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, l'enquête à Vaux-en-Velin après les 10 morts dans l'incendie de leur immeuble vendredi. Vous entendrez les frères d'une des victimes témoigner sur RTL. Un accord entre la France et plusieurs pays du Maghreb. La crise des visas qui dure depuis 2 ans est en passe d'être résolue. Et puis l'inquiétude des salariés de Gosport. Le groupe est-il menacé ? Il y avait une audience ce matin au tribunal de commerce de Grenoble. Je vous rappelle notre rendez-vous culture à 12h50. Aujourd'hui, on parle mode, on parle tendance. La couleur rose est la star de cet hiver. On rappelle également notre question du jour. On vous l'a dit, selon nos informations, les Bleus se rendront bien place de la Concorde ce soir à 20h30. Selon vous, est-ce une bonne idée d'aller à la rencontre des supporters ?
On refait le match à 13h, 14h30. Ça sera les auditeurs ont la parole, bien sûr, mais ce sera on refait le match aussi. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
Et un petit indice tout doux concernant la météo, Claire Delorme ?
Exactement. Cet après-midi, plus de 10 degrés, largement dépassé sur la totalité du pays, mais avec une ambiance
tendance un petit peu plus grise.
Merci Claire.
RTL Midi.
Plus de 24 millions de téléspectateurs ont donc suivi la finale hier entre la France et l'Argentine sur TF1. 24 millions, vous me confirmez Isabelle Morini-Bosque, c'est un record absolu dans l'histoire de la télévision française.
Et comment je vous le confirme, 24,08 millions de téléspectateurs, c'est bien la plus forte audience de tous les temps. Et c'est pas une surprise, puisque déjà la demi-finale avait été plus suivie que la finale 2018. Score encore plus sidéral et sidérant si on considère le pic d'audience. 29 400 000 à 18h58. 87% des 25-49 ans présents devant le poste étaient sur la une. 86% des femmes. Et combien des 4-14 ans, à votre avis ?
90%.
91% et 92% des 15-34 ans. Or, tout n'est pas recensé. Reste à connaître petit A, les chiffres de Beansport, petit B, le nombre de personnes ayant suivi le match dans un café ou sur un écran public géant, c'est ce qu'on appelle l'audience hors sol, et petit C, tous ceux qui ont regardé la finale dans ce qu'on appelle le live sur MyTF1, c'est-à-dire sur ordi, tablette, téléphone, soit 3 millions de personnes en plus. TF1 m'a confirmé ce matin ce chiffre, très partiellement pris en compte par Médiamétrie. Conclusion, quand, côté audience, on aura fait tous les comptes, on sera obligé de constater que c'est bien ça le plus spectaculaire conte de Noël.
Ah, le boycott n'a pas vraiment fonctionné.
Non, je ne peux pas dire hélas.
Merci Isabelle. L'engouement durant cette finale a également concerné, figurez-vous, les paris sportifs. Jamais les Français n'avaient autant joué, autant pronostiqué. Selon les dernières estimations de l'Autorité nationale des jeux, entre 550 et 600 millions d'euros ont été misés en ligne. C'est deux fois plus qu'en 2018 pour la Coupe du Monde.
Et pour les parieurs, il était difficile de prévoir le scénario de cette finale complètement dingue entre la France et l'Argentine.
Mais oui, ce sont finalement les hommes de Léo Messi qui repartent avec le trophée après une séance de tirs au but, nous allons bien sûr y revenir. La déception est immense côté bleu, mais cela n'empêchera peut-être pas de les voir tout à l'heure, place de la Concorde. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Après quelques heures de flottement, c'est confirmé, on l'a, les bleus seront place de la Concorde ce soir ?
Oui, en principe. Vous savez, ce rassemblement, il a quand même fait l'objet d'attentes contradictoires, c'est le moins que l'on puisse dire. Noël Le Graët annonçait ce matin depuis sa Bretagne qu'il avait retrouvé dans la nuit, qu'il n'y aurait pas de rassemblement et que les joueurs allaient rentrer chez eux directement. Mais les joueurs, justement, avaient laissé entendre dans la nuit qatarie qu'ils étaient plutôt d'accord pour être présents à ce dernier rendez-vous afin de remercier tous ceux qui ont eu le cœur bleu pendant cette Coupe du Monde. Volonté encouragée par la présidence de la République et par la ministre des Sports. Il y a donc peut-être quelques turbulences sur ce vol retour. Les Bleus décollent justement dans quelques instants de Doha. Vol Air France 4001 attendu à 19h30 à Roissy. Rendez-vous fixé à 20h30, place de la Concorde.
Ça va être que ça, c'est pas possible. S'ils se posent à 19h30, ils seront pas à 20h30 à la Concorde.
Vous savez qu'ils ont parfois quelques accès privilégiés pour faire Roissy, la place de la Concorde.
Oui, mais il faut surtout récupérer des bagages, etc. Ça me paraît court. Hein.
Ça vous paraît court, mais vous patienterez, Pascal. D'ailleurs, ou sans Noël Le Graët. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser.
Oui, et d'habitude, les rassemblements, c'était pour des finales gagnées. Là, c'est un rassemblement pour une finale perdue. C'est étrange.
Une salutation du cœur bleu du public français.
Vous pensez qu'il y aura du monde, place de la Concorde, ce soir ?
Il y aura même quelques... Il y aura un peu de pluie, il y aura du monde. J'y serai avec vous. On y va ?
Alors, pardon de casser l'ambiance, mais nous allons nous tourner vers les vainqueurs de cette finale. Ces vainqueurs de la Coupe du Monde. Forcément, en ayant décroché leur troisième étoile, les Argentins sont toujours sur un petit nuage, on les comprend. Et pour se remettre dans l'ambiance, la folie du commentateur de la télé argentine, écoutez bien, c'était à la fin du match. L'Argentine, championne du monde. Hugo Hamelin, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
C'est pas fini, hein. Les Argentins, eux aussi, sont très attendus à Buenos Aires dans quelques heures, sans doute un peu fatigués.
Oui, la nuit a dû être très courte pour les Argentins. On a vu la famille de Lionel Messi sortir de sa loge en folie hier soir, chanter, danser dans les travées du stade Luzaï. Quelques débordements aussi quand Kun Agüero, le 27e homme de l'équipe, bouteille de champagne à la main dans le vestiaire argentin, a insulté Eduardo Camavinga lors d'un live sur Internet, sur Instagram. Et puis une mini-parade a été organisée dans un bus à Imperial sur un boulevard proche du stade. Les Qataris ont vraiment voulu faire la fête jusqu'au bout. Maintenant, c'est aussi l'heure de prendre l'avion pour l'équipe d'Argentine et leurs 40-50 000 supporters. Messi et ses coéquipiers vont atterrir à Buenos Aires vers 23h, heure de Paris, où une fiesta démentielle les attend, on imagine.
Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
RTL Midi.
10 morts, dont 4 enfants. Le bilan du terrible incendie d'un immeuble à Vaux-en-Velin vendredi est désormais définitif.
Parmi les victimes, Oumran, une jeune mariée qui venait tout juste d'emménager avec son époux au deuxième étage de l'habitation. Lui a sauté par la fenêtre. Il s'en sort avec deux bras cassés. Mais Oumran, elle a tenté de fuir par les escaliers. Elle est morte asphyxiée. Et dans le document RTL que vous allez entendre, ce sont ses deux frères qui ont accepté de se confier à Raphaël Vantard.
Ma sœur, elle pouvait pas nous quitter en fait comme ça. Il y a un cauchemar, on dirait.
On est attristé, on se sent anéanti.
Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça, hein?
C'est ça, ça faisait un mois qu'ils étaient là-bas.
L'immeuble, il a été délaissé tout simplement par l'État. Hein. Un squat, c'est devenu un lieu où il y a eu beaucoup de fréquentation, des rats partout. C'est quelque chose qui était prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait des morts, il fallait agir avant. Il y a de la colère, mais là en fait, je suis même pas en colère.
On subit et puis voilà.
Document RTL signé Raphaël Vantard. Concernant l'enquête, Frédéric Perruche, en sait-on un peu plus sur les origines du sinistre ?
Eh bien, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée 3 jours après le drame. D'après nos informations, l'incendie se serait bien déclaré dans le squat au rez-de-chaussée. Une cigarette mal éteinte ou un bricolage électrique réalisé par les dealers pour alimenter leur radiateur de fortune ou la télévision aurait mis le feu au canapé, un feu couvant d'abord avant l'embrasement soudain qui aurait gagné les lambris en bois de l'entrée et provoqué d'importantes fumées noires et toxiques. Piste accidentelle donc, car les experts n'ont pas retrouvé sur place de traces d'hydrocarbures ou d'accélérateurs d'incendie. La PJ a passé 3 jours à tenter d'identifier les squatteurs, dealers habituels, quelques individus bien connus de leur service et des habitants. Leurs témoignages, quand ils seront auditionnés, pourraient permettre de comprendre ce qui a pu se passer cette nuit-là. 10 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie, tous résidents de l'immeuble, dont 4 enfants.
Frédéric Perruche pour RTL.
Terminée la crise des visas entre la France et le Maghreb, Paris va à nouveau délivrer ses documents pour entrer sur le territoire.
Chose qui n'était plus aussi simple depuis 2 ans. En fait, la France reprochait à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie de ne pas jouer le jeu, de ne pas reprendre leurs nationaux quand ceux-ci étaient en situation irrégulière. Visiblement donc, Émilie Beaujard, un accord a été trouvé.
Oui, après plus d'1 an de bataille et de brouille diplomatique, la France a donc obtenu des accords avec ces 3 pays. Depuis septembre 2021, la France avait réduit drastiquement le nombre de visas qu'elle octroyait aux ressortissants du Maghreb. Le taux de refus atteignait 50% pour le Maroc et l'Algérie. Un moyen de faire pression sur Rabat, Alger et Tunis pour qu'ils acceptent leurs ressortissants expulsés de France pour séjour irrégulier. Les 3 pays refusaient d'émettre des laissez-passer consulaires pour qu'ils puissent rentrer dans leurs pays respectifs. Après plusieurs rencontres et négociations, des accords ont donc été trouvés dont on ignore pour l'instant la teneur. Les relations consulaires reprennent normalement, indiquent les 3 pays. Un espoir pour ceux qui espéraient un visa pour la France pour les fêtes de fin d'année.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. L'enseigne Gosport risque-t-elle de finir comme Camailleux ? Risque-t-elle la cessation de paiement, la liquidation judiciaire ? Les syndicats sont inquiets puisqu'ils font partie du même groupe, la foncière immobilière bordelaise. Une audience avait lieu ce matin au tribunal de commerce de Grenoble. A-t-elle permis, Serge Pueyot, de rassurer les salariés ?
Alors, pas vraiment, non. La direction de Gosport a certes affirmé devant le tribunal que l'entreprise n'était pas en cessation de paiement, mais pour Christophe Laval, le porte-parole du CSE et délégué force ouvrière, les choses ne sont pas forcément aussi claires.
La justice veut des chiffres fiables aujourd'hui, et pas forcément des chiffres qui sont des prévisions jusqu'à fin décembre de chiffre d'affaires que nous ferions, de chiffres d'affaires qui sont gonflés. Parce que le chiffre d'affaires à fin décembre, il n'est pas encore fait. Donc de quoi parle-t-on ? De rien. Donc c'est pas sérieux. La situation reste inquiétante pour nous. On ne veut absolument pas terminer comme Camailleux.
Géraldine, une vendeuse du magasin Gosport de Grand Place à Grenoble, se pose beaucoup de questions.
Il y a beaucoup de rayons vides. Donc le ski, alors qu'actuellement on est quand même dans la période d'hiver, on n'a pas beaucoup de skis. Allez, une dizaine de skis, que d'habitude on a une centaine de skis en magasin. En 22 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est une catastrophe et c'est alarmant, très alarmant.
C'est mercredi que la justice dira aux 2160 salariés de Gosport si leur entreprise est en cessation de paiement ou si sa situation financière n'est pas si catastrophique.
Serge Puyot à Grenoble pour RTL. La météo, Claire Delorme, ça se radoucit.
Et oui, c'est peu de le dire, puisque la veille, nous avions encore des températures négatives, particulièrement dans le nord-est. Et bien cet après-midi, et bien la barre des 10 degrés est dépassée sur la quasi-totalité du pays. Donc nous aurons par exemple 14 degrés à Brest cet après-midi, 10 degrés à Lille, alors que je le rappelle, la veille, il faisait 0 degrés. Nous aurons 11 degrés à Paris, 10 degrés à Metz, 13 degrés à Besançon, 11 degrés à Dijon, 14 degrés à Clermont-Ferrand, et des températures même proches des 20 degrés en direction du Piémont pyrénéen, 19 degrés à Biarritz, 17 degrés à Perpignan, 16 à 17 degrés également en Corse. Donc en revanche, côté ciel, l'ambiance sera quand même beaucoup plus grise. Nous avons même encore de la pluie avec cette perturbation qui ondule, qui a même tendance à faire du surplace encore des Hauts-de-France vers les Pays de la Loire. Ça se calme un petit peu du côté de la Bretagne, mais avant que les pluies redeviennent un petit peu plus marquées dans le courant de la soirée, on remarquera également ce flux de sud qui va souffler fort le long des côtes de la Manche jusqu'à 80 km/h de la pluie également en Méditerranée contre les Cévennes. D'ailleurs, les pluies seront aussi plus marquées vers les Cévennes, donc une situation que l'on surveillera.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
Marie-Bénédicte Thaler est là dans notre studio pour parler d'Emmanuel Macron, qu'on a vu hier comme coach sur le terrain au 12e homme. Je vous lis Bernard-Henri Lévy il y a une heure. Je ne suis pas fan de foot, a-t-il écrit, et est la tête en Ukraine. Mais je trouve belle l'image de Macron réconfortant Mbappé, l'un thaumaturge, président des défaits et des tombées, l'autre jeune héros plongé dans les colères d'Achille. Elle est romanesque, cette défaite pleine de panache. Eh bien, nous pourrons commenter cela et l'attitude d'Emmanuel et d'Emmanuel Macron dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le reste, c'est le sport. Ça vous y pouvez rien. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est reparti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous.
C'était hier dans le vestiaire des Bleus, après la défaite face à l'Argentine. Emmanuel Macron tentant de réconforter les hommes de Didier Deschamps. Juste avant, le président de la République était sur le terrain avec une longue accolade à Kylian Mbappé, notamment.
Qui ne le regardait pas qui ne lui parlait pas.
En tout cas, nous, on en parle avec Marie-Bénédicte Thaler, journaliste au service politique de RTL. Bonjour Marie-Bénédicte.
Bonjour.
On peut-on dire qu'Emmanuel Macron a était un bon milieu récupérateur hier lors de la finale?
Bah, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que le président aime le foot. Bon, il est allé au Qatar deux fois. Il pouvait être là auprès des Bleus. Visiblement, il en a profité. Il kiffe, comme diraient les jeunes, son rôle de président dans ce cas-là, pour montrer aux Bleus qu'il les aime, pour les toucher, etc. Là où on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il en a pas fait un petit peu trop en la matière? Alors, si on voit les réactions des internautes, il y a beaucoup de gens qui le lui reprochent. Alors, plein de présidents, plein de dirigeants l'ont fait avant lui. Jacques Chirac, en 1998, il passait sa vie dans le vestiaire des Bleus. La différence, c'est qu'à l'époque, on ne le savait pas ou on le savait par des propos rapportés ou par des photos. Là, quand Emmanuel Macron va faire son discours dans le vestiaire des Bleus pour leur dire « Mais vous, c'est bien ce que vous avez fait, vous en remettrez, etc. », l'Élysée, mais ça sur son site.
Ça fait partie de la communication présidentielle.
C'est une stratégie de communication.
Bah, est-ce qu'il était à sa place? Parce qu'on peut même trouver une forme d'indélicatesse. C'est pas son moment, c'est pas sa finale. Et il se l'approprie en se mettant au centre.
Bah, qu'il ait envie de les réconforter, on peut le comprendre. C'est un vrai fan de foot, il aime ça. Mais le problème, c'est cette séquence, je trouve, dans le vestiaire, où on voit les bleus là, qui sont
dépités.
C'est Didier Deschamps qui lui aurait demandé, c'est ce que dit l'Élysée, parce qu'il y a une relation privilégiée entre Didier Deschamps et Brigitte Macron avec les pièces jaunes, et avec le président de la République, c'est Didier qui lui aurait demandé, c'est important de le dire.
Alors ça, je ne sais pas, mais je trouve que ça dure un peu longtemps, et on a l'impression que les joueurs, c'est pas tellement le président qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont peut-être envie de se retrouver entre eux, de se réconforter. Bon, ils applaudissent quand même à la fin, ils sont polis, et peut-être qu'ils sont quand même... Voilà, mais c'était le fait de le mettre aussi sur le site de l'Élysée, comme ça, sur la longueur, Je trouve que c'est
Et puis il y a une image
trop.
Qui a fortement marqué les gens, c'est Mbappé et le président, puisque Mbappé, on a le sentiment qu'il a envie qu'on lui fiche la paix.
Voilà. Oui, exactement.
Pour
exactement.
Le dire comme ça.
Il a les yeux dans le vide, il est dans sa bulle, il ne voit pas le président.
Et le président était sur le podium également. Ouais. Il était sur le podium au moment.
Il y avait une présence.
Donc c'est vrai qu'il était très, présent.
Il était très présent. Ouais. Il était très présent. Bon, d'autres l'ont fait avant lui. D'autres.
Oui, quoi. C'est toujours pareil. En 66, Charles de Gaulle était président de la République. L'équipe de France a perdu 5-0 contre l'Angleterre. Vous n'imaginez pas Charles de Gaulle réconfortant Philippe Gondet, qui était sur la pelouse, ou François Mitterrand réconfortant Michel Platini en 82
c'est
à Séville.
C'est pas la même génération.
Non, c'est pas la même génération.
Mais c'est vrai, vous avez raison.
On comprend qu'il ait envie de le faire, mais je crois que tout est dans la mesure.
C'est ça, c'est peut-être le faire sans les caméras, comme vous le disiez, ou sans
là,
les...
Là, ça va être difficile de faire sans les caméras sur un terrain de football.
Non, sur le terrain,
mais
en tout cas,
les vestiaires, par exemple. Voilà. Ouais, ouais.
Les vestiaires. Merci beaucoup.
Bon, ça fait causer 32-10, ouais. Ça, c'est un thème qui pourra... Alors, évidemment, les macronophiles trouveront ça formidable, et puis ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron trouveront ça insupportable, j'imagine.
Ouais. En tout cas, ça avait l'air de gêner effectivement sur les réseaux sociaux hier, parce qu'on sentait bien que Kylian Mbappé notamment avait envie d'être tranquille, et on pouvait comprendre qu'il ait besoin de ce temps-là sans que personne vienne lui parler.
Absolument.
Merci Marie-Bénédicte Allaire.
Merci à vous.
Quand elle me prend dans ses bras...
Elle me parle tout bas.
Je vois...
La vie en rose.
Oui, mais alors Monique Younes, voilà. ne vous emballez pas, hein, il parle d'Adriana Carambeu, qui est son invitée tout à l'heure.
C'est pas vrai.
Oui, mais là, vous allez nous parler du rose, ou parce que
alors
le rose
que moi,
revient
Mais le rose, j'étais en plein battage de cils, Pascal.
bien sûr, mais le rose, même pour les garçons.
Même pour les garçons, par petites touches
quand même.
Un costume
rose pour les garçons,
Mais si, Pascal, vous allez voir.
À tout de suite.
RTL Midi.
L'instant.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et vous l'aurez compris, la culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, nous parlons donc mode avec Monique Younes. Bonjour.
Bonjour.
Je vois la vie en rose. Il m'a dit.
C'est pas la version d'Edith Piaf.
Ben voilà, c'est la version de Grace Jones.
Qui est pas mal non plus. Vous voyez la vie en rose, Monique, parce que la couleur rose, ou plutôt. Les roses sont très très à la mode cet hiver. Rose poudrée, rose bonbon, rose fuchsia, rose violacée.
Rose poudrée, je ne sais pas ce que c'est.
Un rose très très doux, quand même poudré.
Rose bonbon, c'est comment ?
C'est un peu plus foncé. Non, mais il y a des nuances, Pascal. Je vous assure. Le rose est tellement à la mode. Et souvenez-vous que la première dame des États-Unis, Jill Biden, a reçu toutes de roses vêtues le couple Macron en visite officielle à Washington. Elle avait la robe rose, le manteau rose, les gants roses, les chaussures roses. Seuls ses cheveux sont restés blonds. Elle ne s'était pas fait teindre en rose comme beaucoup de jeunes filles cet hiver. Des teintures lavables, heureusement.
Vous êtes en rose, Monique. C'est quel rose que vous portez là ?
Alors, moi, c'est un rose bonbon. C'est celui-ci.
D'accord.
Voilà.
Et pourquoi le rose est à la mode cet hiver ? On a une explication.
Moi, j'avais l'impression que c'était violet, mais bon.
Ça, c'est violet ?
Ah non.
Non, mais...
On peut dire qu'il tire un peu vers le violet. Voilà. Si vous voulez, c'est rose Barbie. Ça vous va ? Parce que le rose Barbie, il est plutôt violacé. Vous avez peut-être raison. Alors, on peut avancer, Pascal, que la rose est la couleur parfaite, qu'elle soit douce ou pétaradante, pour égayer la grisaille de l'hiver. Mais la grande responsable de cette déferlante de rose est la série américaine Emily in Paris. Je ne sais pas si vous voyez ça sur Netflix. D'ailleurs, la troisième saison démarre après-demain, le 21 décembre, sur Netflix. Si vous avez visionné la saison dernière, vous avez certainement remarqué que la garde-robe de l'héroïne Emily, jouée par Lily Collins, la fille de Phil Collins, était on ne peut plus rose. Et ces tenues roses avaient tellement plu au public qu'ils étaient en rupture de stock après la diffusion de la série. Et ça a donné l'idée à toutes les marques de forcer sur le rose cette saison. Donc la lanceuse de tendance du rose est la costumière d'Emily in Paris. Elle s'appelle Marilyn Fitoussi.
Je trouvais qu'il y avait une espèce de discrimination concernant le rose et le rose fuchsia. C'était une couleur vulgaire, trop girly, trop cagole, trop too much. Et donc, effectivement, une fois qu'on sait ça, je n'ai qu'une envie, c'est de réhabiliter le rose fuchsia.
Mais alors, pour vous, le rose, c'est quoi ?
Une couleur très joyeuse, insolente, que j'avais envie d'utiliser dans un total look. Vous verrez la saison 3 et le rose a complètement disparu parce que maintenant qu'il est partout, ça ne m'intéresse absolument plus de l'utiliser.
Voilà, Marilyn Fitoussi, costumière de la série Emily in Paris, ravie de voir l'euro se décliner cet hiver en manteau, robe, trench, top, pull, jupe, pantalon et autres accessoires divers et variés.
Ce sont quand même surtout les filles qui portent du rose,
vrai,
disons-le.
C'est vrai, Pascal, mais les garçons portent le rose en petites touches, des chaussettes, une pochette, une cravate. Parfois, ils osent le pull rose. Mais vous le savez, c'est uniquement depuis le début du 19e siècle que la couleur rose est associée aux filles. J'ai eu la confirmation en interrogeant Michel Pastoureau, grand spécialiste de la couleur s'il en est.
Pendant longtemps, le bleu est plutôt une couleur féminine en Europe et le rouge une couleur masculine. C'est le rouge de la virilité, c'est le rouge de la guerre, le rouge du dieu Mars. Et quand on décline du côté de l'enfance, eh bien, le bleu devient bleu ciel et le rouge devient rose. Et le système est plutôt bleu ciel pour les petites filles et rose pour les petits garçons. De même, chez les adultes, au XVIIIe siècle, où le bleu et le rose sont très à la mode, on voit beaucoup d'hommes de l'aristocratie qui portent des vêtements roses. On a des portraits de Louis XVI, par exemple, jeune adulte, entièrement vêtu de rose.
Michel Pastoureau qui vient de publier L'Histoire du Blanc aux éditions du Seuil, un livre sublime, parfait cadeau de Noël si vous n'avez pas encore fait votre choix.
Et on ne peut pas parler de rose sans parler ce que vous faisiez il y a quelques instants de la poupée Barbie.
Oui, parce que c'est à cause ou grâce de la poupée Barbie que le rose est devenu, à partir de 1959, la couleur girly, comme on dit par excellence. Mais les excès de Barbie ont discrédité la couleur rose et le rose est devenu synonyme de niaiserie, de sottise, de bêtise, de vulgarité parfois. Les romans à l'eau de rose de Barbara Cartland et ses tenues roses n'ont pas arrangé les choses, alors qu'au XVIIIe siècle, le rose évoquait dans la culture occidentale l'idée de douceur, de la mélancolie, du romantisme, de l'érotisme aussi. Le Minitel était
rose.
Rose, bien sûr.
Et quelles sont les plus célèbres tenues roses?
Ben alors, il y a la robe de mariée en Vichy rose qu'a portée Brigitte Bardot quand elle a épousé Jacques Charrier. C'était le 18 juin 1959, une création du couturier Jacques Esterel. Et cette robe est devenue le symbole de la jeunesse décontractée. Une autre tenue rose a un destin plus tragique. C'est le tailleur porté par Jackie Kennedy le 22 novembre 1963, le jour où son mari John Kennedy est assassiné à Dallas. Un tailleur en lainage, bouclette, rose bonbon, à double boutonnage doré avec un revers bleu marine. Jackie Kennedy lui avait assorti un château de piluliers roses. C'était une copie d'un modèle de la collection Chanel automne-hiver 1961. Le vêtement a été éclaboussé de sang et il est devenu l'une des reliques de l'histoire tragique des Kennedy. Le tailleur est aujourd'hui conservé aux Archives nationales à Washington. Il n'a jamais été montré et il ne le sera pas avant 2103. C'est la volonté de Caroline Kennedy, la fille de Jackie. D'ici là, le rose aura changé 1000 fois de signification.
Et Guy Bedos un jour était arrivé dans une émission de Michel Drucker avec un costume rose tout de suite après l'élection de François Mitterrand. Vous vous souvenez pas de ça?
Parce que l'important, c'est la rose.
Exactement. Il est 12h58, merci vraiment Monique. On va faire un grand débrief. Vous avez regardé le match hier?
Mais pensez-vous que j'ai regardé le match?
Bon, ça vous a plu?
Ben, le début non, après si, et après j'étais vraiment désolée.
Bon, 12h58, on va être avec les auditeurs dans une seconde. Ça va être non pas les auditeurs ont la parole, mais ça va être on refait le match, vraiment là. A tout de suite.
RTL Midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Évidemment, on va parler de cette finale magnifique. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le plaisir de l'avoir vue l'emporte sur la déception de la défaite. Peut-être parce qu'on a déjà été champion du monde. Mais c'est tellement magique le moment qu'on a vécu devant notre téléviseur que j'en oublie que nous n'avons pas gagné. Bonjour Arnould.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit?
Alors oui, je suis déçu qu'on n'ait pas gagné, mais pas triste parce que je pense qu'on ne méritait pas de gagner.
Ah bah oui, c'est quoi mériter? Vous savez, Randol Colomani, il a l'occasion du 4-3. Je ne sais jamais ce que ça veut dire, moi, mériter ou pas de gagner. En revanche, on va en parler pendant une heure et demie. Agnès va nous rappeler les titres et notamment les Bleus qui seront ce soir à la Concorde.
Exactement, malgré la déception, malgré cette défaite face à l'Argentine, les Bleus, selon nos informations, tiennent absolument à venir rencontrer leurs supporters place de la Concorde ce soir. Ce serait vers 20h, 20h30, juste après leur arrivée en provenance de Doha. Ils arrivent à Charles de Gaulle, les Bleus. Plus de 24 millions de téléspectateurs ont suivi la finale France-Argentine hier sur TF1. C'est un record absolu dans l'histoire de la télévision française. Et puisque l'on parle médias sur les réseaux sociaux, une majorité de participants à un sondage lancé par Elon Musk vient de voter pour que l'entrepreneur abandonne la direction de ce réseau social. Sur plus de 17 millions de votants, 57,5 d'entre eux se disent favorables au départ d'Elon Musk. Elon Musk qui s'était engagé à respecter le résultat, bon, pour l'instant il n'a pas réagi. Claire Delorme, on parle météo, et météo en ce moment ça veut dire douceur.
Exactement, une belle douceur, et dire que la veille nous avions encore dégelé en direction du nord-est, et bien cet après-midi nous aurons la barre des 10 degrés qui sera largement dépassée sur l'ensemble du pays.
Merci Claire.
Merci Claire, merci Agnès, merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 avec Arnaud Mulpa, me semble-t-il. Ils étaient ensemble. Et je les salue. Et nous partons avec les auditeurs à 13h02.